Merci mesdames et messieurs d'être venus assister à cette séance de Cercle Aliénor par ce beau temps qui nous fait déjà penser à l'été. Donc je vous souhaite la bienvenue et on passe tout de suite aux annonces, s'il y en a quelques-unes.
Les ricochets poétiques qui ont lieu le 25 de ce mois à 17h au Café du Pont d'Œuf. La créativité en direct.
Ah. Très très bien.
Alors moi à la même date, je suis désolée. Et en plus à 18h, donc vous pouvez difficilement faire les deux. Il faudra choisir. Au local du Fan Club installé dans la maison de poésie Rue Brosguis rue Ballu, je rends hommage à Jeannine Baud et Maurice Foucquiot, et en compagnie de, en particulier de Janine Salès. Donc Brosguis rue Ballu, 18h, Baud, Foucquiot. Qui ont tous les deux été membres, qui ont été actifs au Pen Club. La maison de poésie, aussi associe la bande de Sylvestre.
Très bien. Quant à moi, je vous signale que la prochaine séance aura lieu le 11 mai. Durant laquelle Pierre Dufieffe nous parlera des frères Goncourt et de leur rapport assez curieux avec la poésie. Il a intitulé son propos « La figure du poète chez les frères Goncourt ». Ce fut un temps où le temps s'ouvrait sur porte close, sur pesanteur de silence, ce temps-là, de bleu et d'oiseaux, à regarder le ciel longtemps. C'est par ces quelques vers de Mireille Diaz-Florian que je voudrais l'introduire. Mireille est agrégée de lettres classiques, enseignée à l'université de Marne-la-Vallée. Elle écrit des poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. Elle a également fondé l'association Le Lire et le Dire, anime des ateliers d'écriture de théâtre et de lecture au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes. Elle a écrit un fort beau livre, Catherine Pozzi, La vocation à la nuit. Nul n'était donc plus indiqué pour nous parler de ce poète. Nous l'écoutons.
Alors j'ai décidé de commencer la présentation de Catherine Pozzi en lui donnant d'abord la parole. Donc François va être...
Catherine.
Va être... pas Catherine, non, en fait. Va être mon lecteur. Et ensuite, il me servira de transition. Enfin, on va voir si ça marche. Je pense que ça devrait marcher. Alors, cet engin, là, je le laisse. Je m'en occupe pas.
Parce que j'ai dit ça.
Oui.
À Louise, aussi de Lyon et d'Italie. Ô vous, mes nuits, ô noirs attendus, ô pays fiers, ô secrets obstinés, ô longs regards, ô foudroyantes nues, ô vol permis outre les cieux fermés, ô grand désir, ô surprise épandue, ô beau parcours de l'esprit enchanté, ô pire mal, ô grâce descendue, ô porte ouverte où nul n'avait passé. Je ne sais pas pourquoi je meurs et me noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Je ne sais pas de qui je suis la proie, je ne sais pas de qui je suis l'amour. Alors ça, c'est une introduction un peu d'âme. Gérard Bouville, Marie de Régnier. Comment l'évoquer? Comment la décrire? Comment se laisser aller en parlant d'elle, à la notion du souvenir, à la ferveur de l'amitié? Cela ne lui plairait point. Elle nous mettait toujours en garde contre les déformations favorables, rigoureuse, stricte en ses jugements, bien que tendrement et profondément fidèle en ses affections, jamais sa lucidité ne serait auréolée du halo d'illusions et de rêves dont certains sentiments se plaisent à parer l'idée qu'ils se font d'autrui. La pénétration de son esprit dépouillait toujours celui ou celle qu'elle aimait le mieux de toutes les fausses parures, et pour elle, aimer, chérir, ce n'était pas cesser de connaître, ce n'était pas s'interdire de juger. On aime malgré, disait-elle, parfois en corrigeant d'un éblouissant sourire, d'une jeunesse et d'un éclat inaltérable, à la fois que sa parole avait de décisive et que ce pour son visage avait de masculinité dans les lignes de sa construction. Le regard chaud d'un brun lumineux et d'une compréhension ardente illuminait aussi ce visage d'une maigreur ascétique, ombragé de beaux cheveux d'un brun doux, coupé long, comme ceux de certains profils chevaleresques de médailles de la Renaissance. Paul Valéry à René Vautier. Ma petite Renée, vous vous souvenez que je vous ai parlé quelquefois de cette étrange passion dont j'ai tant souffert il y a quelques années, la tragédie de mon histoire intime. Or, j'ai reçu hier une lettre d'inconnu, l'exécuteur testamentaire, dit-il, de la personne qui est morte il y a 3 mois. Il m'avise qu'il a procédé à la destruction par le feu de toute la correspondance échangée entre elle et moi. Cet avis sec et définitif m'a serré le cœur brusquement. Cependant, je redoutais l'existence de cette énorme masse de papier. Toute une vie intime et le drame de ces échanges, les gens achètent, vendent, publient cela. J'imagine que c'était là certainement ce que j'ai pu écrire de plus remarquable. Car pour répondre à cet amour, et puis pour le ressusciter, il n'est pas de débauche d'idées, d'inventions que je n'ai faites, dépensées, généralement à cette heure-ci même où je vous écris à la pointe du jour, pendant des années. J'aime mieux tout ceci brûlé. Elle était si sensible aux idées, à la naissance des pensées et de la compréhension. Il y avait la passion de l'intelligence en elle, à un point extrême, et notre ardeur de tendresse mêlée d'esprit nous faisait une liaison vraiment rare, acharnée dans la haine. J'aime mieux tout ceci en fumée, et pourtant, enfin, ce fut un coup dur que cette lettre.
Alors j'ai choisi ces 3 extraits pour aborder ce que dans la biographie j'ai appelé la nuit des archives. Et j'ai commencé par un poème donc, qui est le dernier poème qu'elle écrira avant sa mort et qui est le dernier de la plaquette de chez Gallimard. Et ce poème imité de Louise Labbé, qui a surgi dans des circonstances qu'elle décrit dans le journal. Donc cette nuit, elle y est entrée quelque temps après l'écriture de ce poème. Et lorsque je parle de la nuit des archives, ça va nous permettre de repérer, c'est bon ? On m'entend ? D'accord. Ah, il vaut mieux que je sois là.
Un petit peu plus près.
D'accord, comme à la radio.
Voilà, à la radio. D'accord.
Donc, cette nuit des archives dont je vais parler dans un premier temps, elle est reliée évidemment à Paul Valéry. Elle est reliée aux lois ordinaires d'un dépôt de lettres privées qui maintiennent un délai en général d'une 30aine d'années, en tout cas c'était le cas pour Catherine Pozzi, sans qu'on puisse y accéder. Mais on va voir que cette nuit des archives, elle est reliée aussi à toute une série de circonstances parfaitement compréhensibles, notamment les résistances de la famille Valéry pour accepter la présence de la maîtresse de Paul Valéry qui a effectivement troublé son épouse, sa famille, et donc tous ces aspects-là sont bien entendu parfaitement cohérents. Le texte de Marie de Régnier, qui a été son amie fidèle jusqu'à sa mort, qui écrit comme beaucoup de femmes à l'époque sous un nom d'emprunt masculin, Gérard Douville, est une introduction à un livre qui s'appelle « Peau d'âme », qui est un ouvrage posthume que son fils, Claude Bourdet, aura à cœur de faire publier à la demande de Catherine d'ailleurs, et après sa mort. Donc quand on entend finalement aussi bien le poème Nux, qu'elle écrit, que l'introduction de Marie de Régnier à cet ouvrage Peau d'âme, dont je donnerai évidemment quelques explications, permet de la situer. De même que le portrait de Marie de Régnier montre une femme qui fait écho à ce que dit Paul Valéry lorsqu'il apprend que plus de 1000 lettres ont été brûlées à la demande de Catherine Pozzi à sa mort. Cette passion de l'intelligence qu'il met en évidence, c'est aussi ce que Marie de Régnier souligne. tout en soulignant évidemment des traits un peu plus proches de l'amitié qui les reliait. Donc ça c'était pour entrer dans un certain nombre de précisions. Alors, les lettres qui ont été brûlées, évidemment, sont au nombre de presque 1000, hein, mais au moment où moi je faisais des recherches à la Bibliothèque nationale, nous étions en train de fouiller les journaux avec un autre chercheur, Joseph Laurence, qui est un chercheur américain, Laurence Joseph, pardon, qui lui a quand même réussi à sortir un magnifique livre chez Gallimard qui s'appelle La flamme et la cendre et qui garde 780 lettres. Et ces 780 lettres, elles sont souvent issues, alors, soit des journaux non édités, soit de la bibliothèque de l'Arsenal, soit de la bibliothèque Doucet, dans lesquelles on a retrouvé finalement toute une série de traces de lettres. Et ça, ça nous permet de voir d'ailleurs à quel point le journal dont on reparlera est une, comment dire, une source extrêmement riche. Et il est surtout une source magnifique qu'on ne verra peut-être sans doute jamais. Des dessins magnifiques que fait Paul Valéry pour l'illustrer. On a vraiment là un patrimoine littéraire qui est, et esthétique qui est tout à fait intéressant. Donc, qu'est-ce qui a déterminé aussi cette nuit des archives ? C'est que, outre les 30 ans de compression, de consultation des archives, il faut savoir que Catherine Pozzi a beaucoup travaillé à la mise en ordre des carnets, des cahiers de Paul Valéry. Et quand on voit l'édition originale à la Bibliothèque nationale, on voit que toutes les fois où Catherine Pozzi annote, classe, pense, note, etc., tout ça est caché de telle façon qu'au moment de la publication en fac-similé par le CNRS, en fait, on ne voit jamais la trace de Catherine Pozzi, alors qu'il a pensé à un moment donné lui léguer vraiment la parution, enfin, lui a délégué, elle a refusé, mais il voulait lui léguer tout ce travail de toute la série des cahiers de Paul Valéry. L'autre aspect qui a évidemment, non pas compromis, mais qui a retardé le fait qu'on puisse publier quelque chose de Catherine Pozzi sur sa vie personnelle, donc la connaître un peu mieux, c'est également le fait qu'au moment où Claire Polland a décidé d'éditer le journal, il fallait qu'elle ait l'autorisation évidemment de la famille de Valéry. Alors Agathe Valéry, qui elle a collaboré à la publication de la bibliothèque de la Pléiade de Paul Valéry, a été assez réticente, d'autant que dans la Pléiade, quand on voit les initiales Catherine Pozzi, c'est marqué en note contemporaine de Paul Valéry. Donc c'était des résistances assez fortes. Finalement, Agathe Valéry et son frère ont accepté. Et puis là, dernière minute avant la publication, c'est Claude Bourdet, le fils de Catherine, qui sans doute très inquiet de la révélation de cette vie intime de sa mère et également des rapports qu'il a pu avoir avec elle, parce qu'il y a eu des rapports extrêmement passionnants parce qu'ils ont collaboré ensemble à des recherches scientifiques, etc., mais avec par moments des tensions assez fermes, des jugements de valeur de Catherine à l'arraché, qui ne laissait pas beaucoup de chance à son fils sur certains domaines. Bon, donc ça, nouveau retard, puis heureusement le journal paraît. Évidemment, un journal qui est travaillé par Claire Polland avec un certain nombre de choix, qui sans doute dans la prochaine édition qu'elle prévoit aux éditions Claire Polland, elle veut en faire une prochaine édition, va évoluer parce qu'il reste effectivement, quand on consulte les archives, il reste une quantité de choses passionnantes, intéressantes, qui exigent peut-être justement maintenant d'être mises à nu, d'autant que les recherches universitaires qui sont menées maintenant autour de Catherine Pozzi, je pense à Madame Simonet Tenant qui est une spécialiste, font du journal finalement de Catherine Pozzi, bien au-delà d'une écriture de diariste, d'autobiographie, enfin, etc., font du journal une sorte de laboratoire de l'œuvre. Et donc ce journal reste encore une source d'archives tout à fait passionnante, et je pense que dans les 5 ans à venir, normalement, devrait sortir un nouveau journal qui, depuis quand même aussi publié, il y a eu des rééditions en poche chez Phébus, donc qui est parfaitement lisible si vous le souhaitez. Que dire d'autre ? Là, je crois avoir dit l'essentiel sur cette nuit des archives. Et on pourrait dire que toutes ces difficultés, finalement, de sortie du journal ont été résolues aussi par tout un mouvement sur la biographie, l'autobiographie qui est apparue sous la direction aussi de Monsieur Lejeune, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle la littérature du moi. Et donc il y a eu là une sorte de congruence entre la publication du journal, toutes les recherches universitaires qui se menaient sur d'autres journaux, hein, de Marie Bartichev, etc. Tous ces journaux qui sont sortis à peu près à la même époque ont permis finalement de faire venir Catherine Pozzi à la lumière. Je vais te repasser la lecture. Deux autres petits textes avant qu'on s'occupe du journal.
Tu parles fort ou tu micro?
Ah, c'est intéressant ça.
1, 2, 3.
Plus fort. Plus près.
1, 2, 3.
Voilà, très bien.
Alors, ça c'est tiré du journal de jeunesse de Catherine Pozzi. Ce sont donc des extraits. Nous sommes des gens du monde, des gens chics. Le salon de Madame Pozzi est un des plus brillants de Paris. Nous habitons un appartement, place Vendôme. C'est le jour de réception. Madame, dans une toilette exquise, fait les honneurs avec grâce, quoique ça l'ennuie terriblement. Les plus célèbres personnages viennent la voir, aussi bien que les moins connus. Et il est amusant de voir une modeste femme de docteur à côté de l'écrivain à la mode. Un jeune homme simplement vêtu faire la cour à la beauté de la saison. Parfois, au milieu de ces mondains, on voit une grande fille à la taille trop mince, aux jambes trop longues, au corps trop plat, qui offre aimablement des tasses de thé ou de chocolat aux visiteurs de sa mère. C'est moi. Elle s'ennuie beaucoup, cette grande fille. Pourquoi a-t-elle un si charmant sourire sur les lèvres ? C'est qu'elle a déjà, hélas, ce vernis mondain, cette cuirasse d'hypocrisie polie. Pourquoi est-ce que je m'amuse à peindre notre vie ? Je ne sais, mais c'est drôle. La grande fille se lève. Elle est aussi grande que sa mère. Elle est trop grande. Elle a une taille et des manières de femme pour un corps d'enfant. La grande fille se lève, elle va à la fenêtre et regarde dehors. Elle regarde. Il fait nuit. Sur la place illuminée par la clarté jaune des réverbères, une foule de gens passent. Ils sont noirs. Ils marchent vite. Les voitures roulent. En voici, d'autres encore. Où vont-ils ? La grande fille a oublié les visites, elle a oublié le thé à servir. Elle n'entend plus que le bavardage stupide des jolies femmes. Elle ne voit que ces ombres noires qui passent là-bas, au-dessous d'elle. Elle n'entend qu'une rumeur confuse qui monte, croît et grandit. Des cris, des appels, des rires, des plaintes. En bas, deux cochers se disputent. Des gamins courent en chantant. Une femme et un homme dans l'ombre se baisent longuement la bouche. Et les ombres passent. La grande fille regarde passionnément. Et voilà qu'il lui semble que c'est Paris qui passe, gronde et pleure sous ses yeux. Elle voit ces femmes, elle voit les femmes obscènes, elle voit les hommes faux, elle entend les mensonges, elle touche les ignominies. Voici que le comte Z est sa maîtresse. Voilà la fille publique qui vend sa chair tous les soirs à l'acheteur inconnu. Voilà le romancier impudique, voilà le banquier voleur, voilà le prêtre faux et lâche. Voilà la vieille dévote dévêtie. Voici les rois et voici les gavroches. Voici les princesses et les filles. Ils s'enveloppent tous de loques dorées et se font des petits saluts bêtes. Voici l'actrice qui a de si jolies jambes et voici la petite épicière vertueuse. Les voici tous. Ils passent, elle les voit. Quelle foule, quelle immense foule! Et pas un n'est un honnête homme. La grande fille tressaille, elle se voit, elle est là au milieu d'eux, elle est là. Ô misère, il y a aussi la loque dorée, elle dit aussi leur mensonge, elle fait aussi leur salut. Et les yeux agrandis, l'âme palpitante, elle se voit passer lentement, donnant la main à ces misérables, souriant et mentant, jouant la comédie infâme. Et au-dessus de la colonne, au-dessus, la colonne profile sa masse sombre, éternelle image du temps, qui seule ne change pas.
Elle a 15 ans quand elle écrit ce texte.
Le suivant, elle a 31 ans. Celle qui était en coutil blanc, à petit terret bleu marine, dans ce costume tailleur d'Old England dont je me souviens, parce que c'était le premier entre toutes mes robes. Jaquette courte et trois petits volants plats au bas de la jupe en forme. Debout dans ce grand jardin clair, ruisselé de jeunesse. Ce soir, la voilà dans cette chambre d'hôtel dont le balcon regarde trois palmiers en zinc et les dos durs du Carlton et la mer. Elle a une robe bleue encore, mais bleu ciel, et un gros molleton, une robe de chambre, mais en dessous, son corps n'a pas changé. Est-ce un bien ? Ce petit squelette égyptien allait aux 19 ans d'Orgeval. La figure, la peau est plus mate. Les yeux moins grands peut-être, moins lumineux, c'est sûr, moins laides, sinon plus jolis, coiffés avec deux nattes très malignes et des mèches qui bouclent en dessous. Mais quoi, je ne me regarde plus comme autrefois dans la glace, malgré que je reste assise devant aussi longtemps. Maintenant, c'est pour tirer de moi le parti que je sais. Il est assez bon, et puis adieu. Mais alors, vraiment, il y avait de la volupté dans ce miroir.
Elle a 31 ans et elle vit à ce moment-là une phase et de maladie et de séparation potentielle avec Édouard Baudet. Alors, pourquoi ce texte du journal de jeunesse qui est publié chez Claire Pollan, aux éditions Claire Pollan? Parce qu'on pourrait dire que connaître Catherine Pozzi, c'est déjà lire les journaux et les deux journaux d'adultes et journaux de jeunesse qui révèlent alors à la fois une vie, mais en même temps une personnalité et qui permettent des sortes de portraits successifs. Et là, on voit bien que dans le dernier texte, par exemple, elle arrive à 30 ans, enfin 31 ans quand elle écrit, elle arrive à 30 ans avec déjà une partie de sa vie très douloureuse, puisqu'entre-temps, elle aura été malade, on va y revenir. Alors, les journaux de jeunesse, comme on le voit dans le texte qu'a lu François, nous permettent aussi d'avoir un aperçu de la famille. Alors, le professeur Pozzi, des livres importants sont sortis sur lui. Il est un grand chirurgien à la mode, il a été l'amant de Sarah Bernhardt, donc il est connu aussi pour cela, mais il est surtout connu pour l'excellence de son travail de chirurgien. Et il sera, avec des grands portraits de lui, du peintre Sargent, il est aux États-Unis, il sera l'inventeur de la gynécologie française. Et avec le frère de Marcel Proust, ils vont fonder un service de gynécologie à l'hôpital Broca. Et d'ailleurs, il y a eu très longtemps, avant qu'il soit rénové, l'hôpital Broca, il y a eu très longtemps une fresque où on voyait Sarah Bernhardt, le professeur Pozzi, le professeur Proust, etc. Et puis bon, la rénovation l'a supprimé. Donc le professeur Pozzi était non seulement l'homme célèbre, l'homme qui va inventer, quand on dit inventer la gynécologie, c'était véritablement une révolution médicale importante, chirurgicale importante, mais il est aussi un très grand collectionneur. Il est issu d'une famille modeste, mais son métier va le rendre riche. Et donc Catherine va vivre d'abord place Vendôme, donc c'est dire que c'est une adresse qui correspond au niveau de vie de la famille, avec une grande domesticité et un salon qui est un salon littéraire de l'époque où on trouve effectivement les comédiens de la Comédie française, les écrivains à la mode, enfin ce que l'adolescente décrit dans son journal intime. la mère de Catherine Pozzi est de religion protestante, de religion catholique, pardon, à Lyon. La famille Pozzi, d'origine italienne, est une famille protestante. Le grand-père était pasteur à Pau, et une famille assez rigoureuse. Et ils vont avoir, le couple va avoir des tensions multiples, mais entre autres, on va dire, des tensions sur la manière de vivre, la manière d'éduquer, sur la manière de penser. Et on aura toujours une grande distorsion dans l'image du père, l'image de la mère pour Catherine Pozzi. Donc, cette jeune fille, elle est caractérisée par un grand désir d'apprendre, de faire des études, de s'interroger sur tout ce qu'on pourrait appeler les angoisses métaphysiques de l'adolescente. Et on la voit déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans, lire la généalogie de la morale, s'interroger sur le bien fondé de l'éducation religieuse qu'elle reçoit. Et très tôt, on voit bien là comment elle dénonce le mensonge de la société, lorsqu'elle regarde la foule parisienne. Très tôt, elle va chercher à se cultiver, malgré le fait qu'on attend d'elle une seule chose, c'est qu'elle joue bien du piano et qu'elle soit capable de servir le thé dans les moments de salon. Donc il y a aussi une dimension particulièrement rebelle chez Catherine Pozzi. Alors comment va-t-elle combler, on pourrait dire, ce désir d'apprendre? Eh bien, elle a la possibilité d'être aidée par un professeur, par exemple comme Le Châtelier, de se documenter, par exemple, sur le psychologue William James. Elle va lire très tôt un certain nombre de textes de philosophie, et tout cela va marquer à la fois l'écrivain, la poétesse, mais va marquer toute sa vie. On le verra dans l'évolution de l'œuvre. Elle pratique le piano, et elle le pratique avec Marie Jaël, qui est très connue en tant que concertiste, certes, mais surtout en tant qu'inventeur, je ne sais pas si on dit inventrice, inventeureux, d'une méthode de piano. Et elle a fait d'énormes recherches justement sur ce sujet. Elle a connu Liszt, Rubinstein, etc. Et c'est une personnalité qui va être un mentor de Catherine Pozzi, parce qu'elle va à la fois assumer, on pourrait dire, la formation pianistique, mais également toutes les préoccupations, on va dire, philosophiques, intellectuelles de Catherine. En 1907, c'est une date importante, parce qu'il y a une très violente dispute avec son père, qui la gifle. Et à partir de là, on se dit qu'il vaut mieux détendre l'atmosphère familiale qui est très tendue dans le couple monsieur madame Pozzi. Mais Catherine aussi, qui est dans une époque de grande rébellion. Et là, on va l'envoyer à Oxford, dans un collège féminin. Et là, elle découvre la passion d'apprendre. Mais on ne perd pas de vue que c'est une jeune fille à marier. Donc, aux vacances, on la rapatrie et on ne la renverra pas au collège. Donc, Catherine Pozzi soulignera toujours ce temps d'Oxford qui est pour elle un moment exceptionnel, qu'elle a vécu vraiment dans les moments de formation intellectuelle et particulièrement scientifique, parce qu'elle sera toujours extrêmement, évidemment, attirée par les sciences. D'ailleurs, Laurence Joseph, qui est un des biographes de Catherine Pozzi, dit: la tentative d'évasion de Catherine Pozzi a échoué. Alors évidemment, on lui offre ce qu'on offre à la jeunesse riche de l'époque. On va lui offrir de la chasse dans les Pyrénées, des vacances au bord de la mer, des voyages en Italie, mais elle ne pourra pas faire d'études, alors que ses frères, évidemment, son frère aîné, vont engager des études. Donc, cette jeune fille à marier qui ne se marie pas va osciller dans cette période. Donc, elle est en contact en permanence avec la famille Bourdet. Elle flirte ostensiblement avec un des fils Bourdet, mais ce n'est pas celui-là qui va devenir son mari, ça va être Édouard. Et Édouard Bourdet est très connu de plus tard, évidemment, lorsqu'il va devenir un auteur de pièces de théâtre à la mode, La Nuit de Jean Cocteau. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais assister à un colloque où on a Édouard Bourdet à la Comédie Française, puisqu'il a été directeur de la Comédie Française, qui est présenté dans, on va dire, dans tout son trajet, lui aussi. Mais cette union avec Catherine Pozzi va débuter sous des auspices un peu ferme. Je vais vous lire un extrait d'une des premières lettres que Catherine lui adresse. « Il me semble que nous vivons dans deux univers totalement différents et qui ne communiqueront jamais. Dans le tien, illuminé par une rampe électrique, des gens d'esprit font de la psychologie mondaine, de tendres femmes très jolies causent de l'amour sans ironie, la blague pétille, le talent circule, le plaisir donne et reçoit. » Mon univers n'est pas éclairé par l'électricité. Il n'y a que des étoiles, trop d'étoiles. Le vent y souffle, vient de trop loin. Quand je serai ta femme, nos univers ne communiqueront pas davantage. Il faudra que tu me laisses seule quelquefois. Ça, c'est une obligation absolue. Et j'irai me promener dans le mien, sans toi. Donc, on peut dire que ce sont des débuts d'une vie conjugale un petit peu houleuse, que la suite va confirmer, puisque Édouard Bourdet est effectivement dans le domaine du théâtre qu'on aurait peut-être tendance hâtivement à qualifier de boulevard, mais qui quand même à certains égards, dans certaines de ses pièces, l'est, mais qui a aussi une autre dimension. Et donc on va avoir finalement des chemins parallèles pratiquement dès le début, et lorsqu'elle est à Cannes, au Carlton, avec son molleton le soir, là, ce sont des tensions très vives qui surgissent. Donc Claude va naître dans ce qu'elle appelle un délai convenable, Claude Bourdet, qui va devenir ce grand journaliste, ce grand résistant fondateur du mouvement de la résistance dans la région PACA, et qui sera déporté, etc. Et Claude Bourdet deviendra l'assistante générale de Gaulle au Comité national de la résistance, etc. Donc une très forte personnalité. Et donc il est l'héritier finalement d'une mère qui est attiré par les sciences, la philosophie, la poésie, d'un père auteur de théâtre, et lui va trouver son chemin dans les sciences, puisqu'il sera au Polytechnicum de Munich et s'occupera essentiellement de sciences, et il sera ingénieur aussi. 1912, c'est une date importante pour Catherine, parce que c'est la date du début de la tuberculose, qui va l'emporter, s'aggraver, et elle va découvrir la maladie sous toutes ses formes, puisqu'elle aura à certains moments même des abcès tuberculeux, etc. Donc on pourrait dire qu'elle commence là un chemin où la maladie est extrêmement présente, et quand on regarde ces photos, là moi j'ai apporté quelques photos si certains veulent les feuilleter plus tard, enfin à la fin, où on voit véritablement l'impact de la maladie sur la personne, et 1912 là commence l'épisode de cette maladie récurrente avec des périodes extrêmement graves. En 1924, elle a justement un abcès au bras qui la met au bord de la mort. Mais bon, elle ne meurt qu'en 1934 et elle va avoir à subir alors les hémoptysies, enfin, et avec des soins de l'époque. Tantôt on lui fait un auto-vaccin qui dégénère en septicémie, tantôt elle va être soignée avec des opiacés qui la rendent à certains moments dépendante. Enfin, c'est une coulisse extrêmement dramatique dans sa vie. Mais il y a une date fondamentale aussi toute proche, qui est 1913, et qui est la date où elle décide de reprendre le journal. C'est la date de début où elle décide de reprendre le journal. Alors elle écrit: « Cher Dieu, que le mariage a fait fuir, revenez, vous vous êtes trompé. Je suis seule comme avant, comme vous avez fui. » Et là déjà, elle aborde quelque chose qui intéresse évidemment beaucoup la recherche, qui est son style de journal, Et elle le décide. Elle dit, mon style consiste en mots qui s'appellent. Celui-ci nous amène donc immédiatement au cœur de la question. Il y a deux systèmes. Tout raconter comme s'il fallait mettre un lecteur de ce qui s'est passé avant pour l'intéresser au personnage. Ne dire algébriquement que ce dont j'ai besoin pour mon état des lieux. Second parti adopté. Pas de lecteur, ni en vue, ni que mon caractère descende à désirer. Et alors là, on découvre un des traits de Catherine Pozzi qui va irriguer aussi ses relations avec Paul Valéry et son écriture de journal. On y voit à certains moments une assurance de l'intellectuel qui est passionné par les sciences, et on y voit à certains moments le doute, la maladie, l'effondrement, la femme en molleton qui sombre dans la maladie. Donc on a déjà des pistes de vision de Catherine Pozzi qui vont apparaître. Il y a quelqu'un dont on pourrait parler, mais dont on ne peut pas parler de tout, mais qui est André Fernet, qui est un ami très proche, ce qu'on pourrait peut-être même appeler un amour platonique de part et d'autre. Et là, on a une correspondance absolument magnifique à la bibliothèque, parce que c'est une correspondance pendant la période où André Fernet est dans les tranchées de la guerre de 14. Il va mourir abattu dans son avion. Mais on voit alors des choses très intéressantes, parce que avec Catherine, il vient de faire une mission de jeter des bombes, évidemment, mais il va lui conseiller des lectures de Spinoza, lui demander de lui envoyer un texte grec de Platon, parce que précisément, il aimerait bien retraduire certains passages. Donc on voit une espèce d'échange magnifiquement intellectuel, écrit avec des lettres écrites avec une langue absolument magnifique. Et ça a été un temps pour Catherine, de cet amour rêvé d'un homme qui côtoierait l'absolu, ce dont elle rêve, et en même temps un échange intellectuel qui caractérise aussi tout ce qui fera le lien avec d'autres intellectuels qu'elle aura, les liens qu'elle aura par la suite. Donc, cette période nous mène, si on avance un peu à grand trait, à la séparation en 1917 avec Édouard Bourdet. Elle se retrouve donc avec Claude et elle va vivre la plupart du temps chez sa mère à Montpellier à ce moment-là. C'est aussi une période où elle fait des cures en montagne, etc., pour essayer de lutter contre la maladie. Et nous allons arriver à la dernière lecture de François, à 1921 bientôt.
20 octobre 1920. J'ai relu La Jeune Parc hier tout le jour. Il n'y manque qu'une chose, cela que je suis. Il y manque la douleur, mon amour et l'élan vers un bien clairement conçu. C'est une musique égale à la musique, mais inhumaine. Un jeu beau comme l'eau des fontaines de la Villa d'Est, mais un jeu qui aurait pu ne pas être. Orphée ne peut ne pas être. Orphée, réponse à la seule question, puis-je être plusieurs ? L'âme commence par s'amuser, à vivre, ne croyez-vous pas ? Et puis au point précis où toutes les forces sont conscience, et à ce point seulement, elle oblige le bonheur, se perçoit comme divisé, faite douceur et femme. Barnet ne tient pas à la différence. Et cette division affreuse oblige le bonheur. Elle oblige, si le mythe est vrai, encore la liberté, ou du moins l'esprit de liberté qui consiste à sortir du monde, Eurydice, aux enfers. Pouvait-elle ne pas aller aux enfers ? C'est alors qu'Orphée crée la musique, et que demeurer seul, errant entre larves, tortues et démons israélites, et, ami des arts, il charme ses animaux par des ondes de douceur immortelle. Mais laisse mes lèvres sur tes yeux pendant qu'encore je suis ici. Lettre de Paul Valéry, 14 avril 1922. Mon amour, je pense que je pars demain et mon être se sert à toi. Je remarque là-bas que la lune est déjà fondue. Elle a perdu un quart son poids de lumière depuis hier. Tu dors et moi je veille. Tu m'aimes en dormant et je t'aime devant la blanche lumière du matin. Déjà j'ai fait courir le chien. Je me suis suspendu par les bras à l'arbre qui est au coin de la terrasse. Une soif que l'absence rend furieuse et que la présence même fait d'ici doucement démente. Voilà mon état. Je crois que je n'écrirai plus rien que pour toi et seulement à toi. C'est vraiment étrange, une merveille philosophique que de penser que mon scepticisme a pour conséquence de me permettre de me moquer de tout objet intellectuel autre que la pensée de toi. On dirait que j'ai passé mes jours à considérer toute chose de l'esprit sous le rapport de sa fragilité, afin d'en arriver aujourd'hui à vous préférer aisément, trop aisément, et à toute ambition, même intérieure. Oh, qu'à tous mes souhaits, que vous êtes semblable.
Alors évidemment, on a sans doute tous ici une vision de Paul Valéry, plutôt l'académicien, le poète officiel. Et ce qu'il y a d'intéressant finalement dans cette aventure intellectuelle et amoureuse, c'est qu'on découvre aussi un autre Paul Valéry. Alors elle le rencontre en 1920, elle écrit dans le journal les détails sur la rencontre, mais ce qui se passe véritablement dans cette rencontre, c'est qu'elle est d'abord et avant tout charmée par la parole, par l'écriture, par la littérature. Donc elle le décrit comme un homme timide, rencogné dans un fauteuil au Plaza où elle le rencontre, et elle s'émerveille véritablement de voir comment, elle dit, il suit le fil d'or, c'est-à-dire dès que la conversation s'engage entre eux, elle a l'impression d'avoir trouvé vraiment cet absolu qu'elle cherche dans la relation amoureuse, qui ne peut qu'être aussi intellectuel, et on pourrait dire que Paul Valéry est le bienvenu. Lui, à l'époque, il a 49 ans, il est marié avec des enfants, et il est, un homme à la fois qui a des problèmes financiers, notamment à certains moments très précis. Catherine, c'est la grande bourgeoise, elle ne se prive pas d'ailleurs à certains moments de le lui faire sentir. Et elle va s'engager une liaison parfaitement tumultueuse, dont Paul Valéry témoigne dans ses cahiers, sur le cahier de Catherine, sur le carnet de Catherine, également dans cette correspondance que Laurent Joseph a retrouvée, témoigne de la violence, la passion. Enfin, on découvre un homme à la fois fasciné par la qualité de leur échange et à la fois un homme qui est, par certains moments, désespéré de cet amour. Donc ce sont 8 années extrêmement mouvementées qui vont se dérouler, mais qui sont caractérisées par un échange tellement riche qu'il a un impact aussi bien dans l'écriture de Paul Valéry que dans le travail et l'écriture de Catherine Pozzi. Donc cette période-là, elle est aussi géographiquement située dans plusieurs endroits. La véritable rencontre amoureuse a lieu à La Grolée, qui est la maison familiale de campagne de la famille Pozzi, qui se trouve dans le sud-ouest, près de Bordeaux, et également dans la petite maison que Catherine a achetée à Vence, qui s'appelle La Collinette, et dans laquelle Paul Valéry fera de longs séjours de travail. On le voit dessiner, sculpter le buste de Catherine, écrire, etc. Donc c'est une liaison qui va se distribuer dans le temps et dans l'espace de façon parfaitement sereine à certains moments, parfaitement destructrice. Le mot haine a été prononcé tout à l'heure dans un texte, dans le texte de la lettre de Paul Valéry. Et donc on a une forme d'affrontement et en même temps d'échange tout à fait nourrissant pour les deux. Catherine va rompre brutalement donc en 1928, et là on a des moments effectivement de courrier de Paul Valéry tout à fait étonnants et intéressants. Et elle écrit: je vais enfermer ce cahier dans la quatrième boîte que j'ai bien bracelée. Il y en a 5 scellées avance. Celles-ci ne contiennent que mon journal, peu de lettres, peu de dessins, une belle gravure qu'il fait de moi quand j'écrivais Agnès. Les 4 boîtes scellées contiennent le roman de Karine et Paul et il est fini. Donc là, on a une fin de non recevoir, il ne verra plus Paul Valéry, sinon à le croiser dans les salons de l'époque. Alors, on peut du coup entrer un peu sur la... voir un peu quel est l'impact sur leur travail chacun. Excusez-moi parce que j'ai une voix un peu fragile. Alors Michel Jarty, qui est l'auteur de l'énorme travail, de l'énorme biographie sur Paul Valéry, a passé son temps, lui aussi, on était à peu près à la même époque, à la bibliothèque, a retrouvé ce qu'il a appelé les poésies perdues de Paul Valéry, et notamment un certain nombre de textes, dont on aura des extraits tout à l'heure à la fin, un certain nombre de textes écrits dans la période et pour Catherine Pozzi et qui sont à la fois évidemment annotés par Jarty, qui montrent l'importance dans l'écriture de chacun de cette aventure. Elle va marquer, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, elle va faire un énorme travail sur les cahiers de Paul Valéry, d'annotation, de classement. On peut dire que j'espère qu'un jour on va avoir, mais d'ailleurs Jarty le dit très bien, mais on va avoir un peu de clarté sur ce sujet, à savoir qu'elle elle a contribué notoirement au classement des cahiers par thématique. Alors le cahier qui s'appelle Eros, qui traite donc de l'amour, est un des plus beaux cahiers d'ailleurs de Paul Valéry en termes de dessin, d'aquarelle, de pastel, c'est une pure merveille. Et là, on voit les classements et là, on voit les annotations de Catherine dans les marges et on voit le travail qu'elle a pu effectuer. Elle est la figure féminine de deux ouvrages de Paul Valéry. Dans Eupalinos, c'est l'âme de la danse. Et il lui dédie un poème de charme qui s'appelle « Les pas » et qu'on écoutera aussi tout à l'heure. Donc, excusez-moi, je sors d'une bronchite méchante. Donc, cette période-là, ça aurait pu paraître anecdotique finalement de parler d'une liaison de Paul Valéry avec Catherine Pozzi, si ça n'était pas un moment où Catherine travaille particulièrement toute la réflexion qu'elle mène depuis toujours dans le journal. Et à la rupture, elle va s'occuper de son œuvre personnelle. Elle a publié une petite nouvelle qui s'appelle Agnès, mais sous des initiales qui ne l'identifient pas. Elle va ensuite là repasser son baccalauréat, donc elle a sa deuxième partie de baccalauréat dont elle est très fière. Et surtout, et je pense que c'est sur ce point que je vais avancer vers la conclusion, elle met en chantier, on pourrait dire, une œuvre qui vient d'être rééditée, qui s'appelle Peau d'âme, et qui est un travail qu'elle mène depuis les années 1915. Elle rêve d'un ouvrage qu'elle appelle un conte, qui n'est pas un conte, qui est une sorte de texte philosophique et poétique, dans lequel elle va s'interroger sur finalement le devenir de l'âme après la mort, mais au regard de tout ce que l'on peut connaître dans la physique contemporaine de son époque, au regard de toute une réflexion sur la sensation. C'est une, je dirais, une platonicienne absolue, Catherine Pozzi, et elle va travailler sur cet ouvrage qui a commencé à s'appeler le De Libertate, qui va devenir le corps de l'âme et qui va finalement, sur ses conseils qu'elle va donner à son fils, donc être publié en 1935 sous le titre Peau d'âme. Alors c'est un ouvrage particulièrement difficile évidemment, parce que d'abord Claude l'a classé selon certains conseils, mais avec peu d'aide intellectuelle de Catherine à ce moment-là, très malade. C'est un ouvrage de réflexion philosophique et scientifique qui exigerait, mais on ne peut pas remonter plus loin sur les formations scientifiques de Catherine. C'est là que Claude l'aidera beaucoup, parce que pratiquement 15 jours avant sa mort, elle est encore en train de travailler avec Claude sur des détails de physique qui lui importent pour corriger certains de ses propos. Et puis bien sûr, il y a la poésie. Alors la poésie, eh bien, elle est essentiellement posthume. Un seul poème est publié par Jean Paulhan, est un poème qu'elle a écrit dans le train. Ce poème incite Jean Paulhan à lui demander les autres poèmes, elle refuse. Donc c'est uniquement Claude Bourdet qui sera le dépositaire des textes qui sont publiés il y a un an aussi après sa mort dans la revue Mesure et qui seront publiés chez Gallimard. Et dans l'édition Gallimard, il y a également les traductions qu'elle fait d'un poète allemand, Stéphane George, enfin, et d'autres extraits de textes, dont quelques petits extraits de Kodam d'ailleurs. Donc ce poème qu'elle a envoyé à Jean Paulhan sera le seul édité, et elle a mis beaucoup de temps à se décider, il lui a fallu beaucoup de pression, mais quelques temps avant de mourir, elle va donc écrire Nix que François a lu. Elle va confier à son journal quelques certitudes. Il y a des instants très courts où je crois que j'écris un livre qui les délivrera tous. Là, elle pense à son livre « Peau d'âme ». L'état de Nietzsche au-dessus de Gênes. Il y a des instants constants où je crois que personne ne le considérera. Pourquoi donc je passe ma vie? Parce que ma vie fleurit pour cela. Ce livre et ma vie sont tels qu'il n'est plus possible de les séparer. Donc d'un côté, elle a des certitudes contraires. Elle est sûre que personne ne s'intéressera à Peau d'âme. Pas tout à fait tort, parce que c'est un ouvrage difficile d'accès, même si actuellement il y a une thèse très intéressante, la jeune femme qui a fait une thèse très intéressante sur ce livre. Elle avance doucement dans ce livre, et elle va écrire le 7 novembre 1934, donc elle meurt le 3 décembre, elle écrit « J'ai écrit Valet, Ave, Maya, Nova, Scopolamine, Nix. Je voudrais qu'on en fasse une plaquette. Sappho n'a pas traversé le temps sur plus de mots. Paulhan a imprimé Ave. Il dit qu'il y a Maya, Scopolamine, Nova. Henri de Régnier et Paul Valéry ont Valet. Ainsi, on peut les retrouver. Elle écrit dans le journal « Je sais qu'Ave est l'extrême beauté que moi, je puisse atteindre, alors l'atteindre, la toucher et me taire. » Alors je vais passer aux voix de Jean-François et de Catherine et de Colette qui va être souvent Catherine.
Amère comme tu sais l'être, ô vie, amère et douce comme tu sais l'être. Amère et douce et lourde comme tu sais l'être, ô vie. Amère et douce et lourde et leste et longue et brève comme tu sais l'être, ô vie. Comme il n'y a que les larmes qui sachent juger, équivaloir, payer des instants beaux. Il n'y a qu'un rire qui puisse à tes mots bien répondre.
Extrait de Peau d'âme, avec en exergue une citation de Sainte Catherine de Sienne, s'armer de sa propre sensualité. Le jardin de juillet s'étendait sans limite, car les paysans de ce pays n'élèvent pas de murs entre leurs vignes, seulement des haies qui sont aux pampres confondues. Un espace de fleurs divisé par 4 allées droites, de quoi marcher sans pas, laisser marcher la fantaisie sur 100 hectares, des cèpes au ciel, mais à vos pieds, les passe-velours, trop nombreux,
par tiges, rond comme des mandarines, un frelon au cœur envoyait jusqu'à vos genoux une odeur orange. Et à votre main, la couleur de votre sang avait fait une seule rose, et elle approfondissait l'azur. Vous étiez assis sur un banc. C'était les dahlias que vous regardiez. Ils jouaient déjà dans l'automne. Ils étaient déjà ce matin dans le faste soir. Ils accompagnaient déjà de cris épanouis les raisins qui n'étaient pas mûrs, comme au chant des vendanges passées. Soudain, vous entendîtes les jours passer.
Paul Valéry, charme, les pas. Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placé vers le lit de ma vigilance, procède muets et glacés. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ces pieds nus. Si, de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées, la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas.
Lundi, votre gaieté, je la connais très bien, c'est la mienne. Une espèce de claquement de jeu moqueur par-dessus un désespoir patricien. Et puis, des danses d'enfants qui se trouvent gentils. Oh, monsieur, doux, sec, en bleu pâle, il y aura toujours une Karine pour être le revers de vos médailles d'or. Savez-vous qu'aujourd'hui, je me suis demandé si je vous aimais et répondu non. Je vous appartiens. Je ne vous aime pas comme quelque chose de séparé. Je vous ressens. Quelle pluie, quel vent, oh mon pareil. Oh, Sigmund fait du même sang, du même passé, des mêmes questions, du même orgueil, des mêmes caresses. 11h soir. Oh, vous, vous souvenez-vous de l'entente profonde du mariage des idées qui riait d'être double? Vous souvenez-vous du frisson de tout l'être quand vous lisiez mon âme dans mes mots? Vous souvenez-vous des pays de pensée où nous devions aller?
Or, il y eut pendant quelque temps dans le jardin et pendant la durée infinie de la vie d'une douleur, il y eut, comme un abîme mouvant, allant, errant et s'arrêtant sur la figure ordonnée et odorante de ce jardin. Sur la terre grise et rose, sur les ombres et les lumières, parmi les touffes, entre les arbres et les arbustes des allées, un abîme se déplaçait comme l'ombre d'un nuage. Un esprit l'avait aperçu, les yeux ne le voyant pas. Il y avait comme un abîme entre deux pensées qui étaient presque la même, et des deux côtés de l'abîme, une même peine, ou presque la même. Car deux âmes divisées se mouvaient séparément vers leur ressemblance, car chacune se tourmentait à cause de l'éloignement intérieur de son autre même, et cela créait et cela recréait en soi indéfiniment comme supplice, et la faisait tantôt trop méchante et tantôt trop aimable, et tantôt trop haïe et tantôt trop aimée. L'amour inquiet formait et déchirait l'image. On se tait. Un silence à présent fait de nous deux se porte avec une lenteur chargée de charges invisibles, un poids écrasant de séparation, une masse d'amertume contractée, un bloc de tendresse toute prise dans sa profondeur et plus dure que glace. Vers nul point du jardin, nulle préférence de fleurs, ni de bel arbre, ni de lieu plus aimable qu'un autre, du même pas, côte à côte, identique en mauvaise pensée, les cœurs mêmement serrés, les yeux et les gorges mêmement serrés et secs, les regards de même absence douloureuse, les corps dont les ombres se mêlent sur le chemin, procèdent et comme, non dans l'espace, mais dans un temps qui doit finir, c'est un abîme qui se déplace sur la terre en pleine lumière.
Ave. Très haut amour, s'il se peut que je meure sans savoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire. Oh, mon séjour, quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment, quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi, car l'univers en mille corps brisés, 2000 instants non rassemblés encore, de cendre aux cieux jusqu'au néant vané, vous referez pour une étrange année, un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, oh centre du mirage, très haut amour.
Les textes qui étaient lus par la voix d'homme sont des textes de Paul Valéry et d'un recueil que je ne peux que vous recommander parce qu'il est très méconnu, qui s'appelle Alphabet, qui a été mis en ordre par Michel Jarty, qui est en poche et qui est un petit bijou de poèmes en prose de Paul Valéry. J'espère que Catherine ne m'en veut pas de faire l'éloge de Paul Valéry. Et donc Ave est ce poème dont elle dit que c'est le meilleur qu'elle était capable de faire. Voilà. Merci au lecteur.
Merci en tout cas Mireille de cette excellente introduction à la poésie de Catherine Pozzi. Peut-être a-t-on des questions, des interrogations, des réflexions. Non.
C'était pile.
Moi j'en ai deux ou trois là.
Vas-y.
Si j'ai bien compris, il y aurait eu environ 2000 lettres entre.
En tout, oui.
Il y a eu 1000 supprimées.
1800, oui. 790 environ, ont été retrouvées. Essentiellement dans les journaux. Parce qu'en fait, très souvent, on avait des. Ils préparaient leurs lettres dans le journal et même quelquefois ils se les écrivaient sur le cahier de l'autre, le journal de l'autre. Donc on a ces traces-là.
D'accord.
Oui.
Enfin, 2000 lettres, c'est énorme.
Oui. C'est-à-dire ce qu'on voit à l'époque, c'est qu'ils s'écrivent plusieurs fois par jour. C'est le seul moyen de communication en fait, et la lettre circule, même quand ils sont à Paris, ils s'écrivent évidemment, parce que Paul Valéry est chez lui et elle chez elle, et on voit d'ailleurs que la poste marche merveilleusement, parce qu'elle poste, oui absolument, absolument, on voit qu'elle poste des lettres avance, et qui circulent très vite la nuit par Avignon, si j'ose dire, et elle les a le matin. C'est extraordinaire parce qu'on voit sur les dates de la correspondance. Moi, ça m'a extrêmement surprise parce que maintenant qu'on n'a plus de lettres qui circulent, c'est très très fascinant.
En effet. Et pas de téléphone, peut-être un peu, mais.
Le téléphone, oui. Le télégramme, beaucoup le télégramme. Oui. Béatrice.
J'avais lu, est-ce que c'est vrai que Valéry avait un peu profité de Catherine Pozzi.
Avait
profité. C'est-à-dire qu'elle
alors
aurait.
Ça, c'est un vrai débat.
Elle avait eu des intuitions.
Un vrai débat. Sur les cahiers, notamment,
je dirais que c'est même plus un débat, c'est une certitude que tout le monde connaît maintenant, c'est-à-dire le fait que Catherine a organisé la composition des cahiers. Mm-hmm. La preuve aussi que Paul Valéry voulait en faire la légataire des cahiers. Donc c'est bien qu'il avait une confiance majeure dans son regard et ses propositions. Et elle a travaillé, mais énormément sur ce classement, parce que c'est gigantesque. Même s'ils ne se sont travaillé que, disons, 8 ans ensemble sur ce support. L'autre querelle, elle est autour de la nouvelle qui s'appelle Agnès. parce que elle a fait paraître cette nouvelle qui a eu un certain succès. Elle a fait paraître cette petite nouvelle avec comme initiale CK, parce que Paul Valéry l'appelait Catherine Karine, donc elle fait paraître. Et on dit... oui, je pense. Et donc, on pense, parce que c'est quand même très tendance à l'époque, enfin, de ne pas pouvoir imaginer que les femmes écrivent. Donc, de même que Marie de Régnier écrit sous un nom d'emprunt, de même, on est persuadé que c'est Paul Valéry, parce que tout le monde connaît la liaison, évidemment, on est persuadé que c'est Paul Valéry qui a écrit la nouvelle. On ne peut pas imaginer que Catherine Poddy puisse écrire une nouvelle. Donc, ça a été tout un débat. Pour Catherine, c'est extrêmement violent. Et c'est en partie une des raisons qu'elle donne à Pollan de ne pas donner ses œuvres, parce que elle dit finalement, on n'arrête pas de prêter... À l'autre, dit-elle avec un O, un majuscule, finalement mon travail. Donc le débat existe, sur les cahiers il est résolu, finalement une fois qu'on enlève les caches des facsimilés, on retrouve toute l'écriture de Catherine, et alors on peut imaginer que dans les correspondances brûlées, il y a eu aussi beaucoup d'échanges sur ce travail, mais...
Alors, j'ai une question, est-ce qu'elle ne s'est pas auto-censurée de vivre à côté comme ça d'un
Virginie? Tu peux répéter.
Oui. Qu'elle se serait auto-censurée dans l'écriture?
Il est certain qu'après l'histoire de la nouvelle d'Agnès, elle est persuadée qu'en tout cas tout ce qui est publication pardon, n'est pas pour elle. Ça c'est évident.
Alors, je prolongerai un petit peu la question de Béatrice et je la pousserai un peu dans des régions un peu difficiles. On a parlé de plagiat.
Oui, on en a parlé.
Parce que Paul Valéry aurait plagié...
Oui, c'est une hypothèse qui circule maintenant. Je crois qu'elle sera difficile à prouver. Excusez-moi, j'ai mon secours pour la voix. Sinon, je ne vais pas pouvoir m'enlever. Oui, il y a dans les cahiers des aspects où on entend beaucoup Catherine Poggi, dans l'écriture de Paul Valéry.
Oui, vous avez évoqué Nietzsche à un moment donné. Quand vous écoutez au début la Catherine, on a l'impression de prendre un peu le design de Hamburger, et on sent vraiment la filiation de Nietzsche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la Catherine philosophe?
Alors, c'est un... Comment dire? Il y a de quoi en parler longtemps. On va dire qu'elle est formée essentiellement à la philosophie grecque. Elle est une grande helléniste. Elle traduit très bien le grec. Elle a traduit des poèmes orphiques. Et elle maîtrise le grec. Comme c'est assez courant à l'époque, quand même, dans les éducations des hommes, mais assez rarissime dans l'éducation féminine, qui est une éducation pour elle autodidacte. Ensuite, elle va s'intéresser beaucoup à Bergson, elle suit ses cours à la Sorbonne. Ensuite, elle lit beaucoup Plotin, donc elle est certainement d'ailleurs plus tournée du côté de Plotin que de Platon, même si j'ai dit qu'elle était une platonicienne. Et à partir de là, elle rêve, en tout cas dans cet ouvrage de Peau d'âme, de faire une réflexion sur tout ce qui pourrait croiser des éléments métaphysiques et des éléments scientifiques. Donc, dire qu'elle est philosophe, c'est peut-être un peu fort, excusez-moi, mais elle aborde réellement, par les sciences et la philosophie, notamment la généalogie, Bon.
Qui est le vitamine
C? Bon, je vais quand même essayer de répondre avec le micro. Bon, on va y arriver. Alors, évidemment, les recherches sur Peau d'âme sont en cours et il y a beaucoup
travail qui est fait à ce sujet. Je pense que c'est pour ça qu'il est récemment réédité. Parce qu'il y a une recherche philosophique sur cet ouvrage. Excusez-moi, vraiment, là, je suis rattrapée par la méchante bougie. Est-ce que je vois quelque part? Bien. Excusez-moi, si vous avez d'autres questions, je vais quand même faire un effort pour répondre d'une voix cavarneuse.
J'avais une question sur le baccalauréat. Donc, on a passé les deux parties du baccalauréat d'une façon assez distante, suffisamment pour pouvoir entrer à l'université.
Oui.
Mais en fait, elle avait déjà une telle culture que était-il vraiment nécessaire qu'elle passe le baccalauréat?
Pour elle, c'était essentiellement symbolique.
Oui, ah,
c'est ça. Et ça lui a permis de fréquenter les cours de sciences à l'université. Donc, elle le passe en deux fois parce que la deuxième partie du baccalauréat, à l'époque, elle ne peut pas la passer parce qu'elle est malade.
D'accord.
Donc, elle va la passer après la séparation avec Paul Valéry et elle obtient la deuxième partie, parce qu'il y avait deux parties. La première, elle la passe à Strasbourg et elle est dans un état de maladie déjà très avancé. Donc, elle a ce diplôme, mais elle a surtout... Évidemment, je n'ai pas tout dit parce que je guettais un peu l'heure, mais elle va aussi, après la rupture avec Paul Valéry, elle va beaucoup travailler à la Sorbonne. Elle suit beaucoup de cours
scientifiques. Ce qui veut dire que Paul Valéry ne l'a pas poussée à passer le baccalauréat?
Non, non, je ne pense pas. Non, non. La relation avec Paul Valéry se fait autour d'un dialogue, en fait, réciproque, de questionnement, de la même façon que Paul Valéry se questionne tous les matins dans ses cahiers, de la même façon l'échange avec Catherine porte autour des réflexions philosophiques. Alors, le monsieur Test, dont il est question aussi chez Paul Valéry, il est un peu chez Catherine Pozzi aussi. C'est-à-dire, il y a une manière de vouloir élaborer toute une réflexion sur la conscience. Mais la généalogie de la morale, pour vous répondre un peu mieux, elle s'y intéresse dès l'âge de 15 ans. Et c'est fort étonnant dans le journal de jeunesse de voir comment elle reçoit cette œuvre, parce qu'elle donne des points de vue sur l'écriture, elle donne des qui sont très très surprenantes. De la même façon qu'elle sera étonnamment sensible... Un voyage au bout de la nuit qui paraît à un moment donné où elle en est au courant et elle va déceler, je crois qu'elle décèle beaucoup de réflexions dans la modernité, qu'elle soit scientifique, parce qu'elle va s'intéresser aussi à la physique quantique. Et c'est Claude qui va, son fils, qui va aussi l'aider à résoudre des équations, etc. Il l'aide beaucoup. Dans le domaine scientifique. Alors là, moi j'ai la correspondance de Claude en photocopie avec sa mère et on voit alors des lettres énigmatiques parce que c'est un cours de physique, enfin énigmatique pour moi, un cours de physique qui permet de préciser quelque chose sur lequel elle travaille. Quand il vient la voir, elle lui soumet des questions scientifiques pratiquement jusqu'à la fin. Dans le journal, on voit, pas forcément publié, mais dans le journal de la bibliothèque, on voit des traces d'échanges où elle est en train de travailler sur cette œuvre, où elle rêve d'une synthèse, oui c'est ça, à la fois philosophique et scientifique, et à certains moments théologique. Parce qu'il y a aussi chez elle une part mystique qui s'interpénètre. On le voit dans certains poèmes. Mais par exemple, dans le poème d'Ave, quand elle dit « Quand je serai pour moi-même perdue et divisée à la vie m'infinie, infiniment, quand je serai rompue de mille corps, m'en rassemblés ensemble, etc. » Elle cherche à voir comment la science, on va dire, atomique, nucléaire, pourrait... et ça, je pense que c'est très moderne, je pense que c'est pour ça qu'il y a une interrogation sur son œuvre aussi... on pourrait dire l'histoire de la matière pourrait contenir de la conscience. Et ça, elle en discute aussi avec Louis Massignon, c'est-à-dire elle a tout un réseau d'intellectuels autour d'elle qu'elle va, avec lesquels elle a une correspondance extrêmement riche. Par exemple, avec Curtius, cet intellectuel allemand, elle a une correspondance extrêmement savante. Et on voit qu'elle arrive à un moment où il y a vraiment une modernité dans la réflexion. Et elle-même, elle incarne finalement à la fois la grande bourgeoise qui pourrait être dans les... chez la comtesse de Guermantes, évidemment, mais en même temps, une femme qui travaille énormément.
Elle a connu Teilhard de Chardin ?
Non,
ou c'était...
non, elle en parle, mais...
Oui, ça dit que je suscite une autre question, alors, mais sur, pas sur le terrain passionnant, évidemment, de la question métaphysique, philosophique, et entre la science et la conscience, on pourrait dire, mais c'est plutôt une question de pédagogie. Parce que très souvent, on observe que lorsqu'on a 15 ans, par exemple, on est en révolte, on se pose des vraies questions, puis après on a 30 ans, on commence à rentrer dans le moule. Et comme à 15 ans, elle est déjà en train de se dire, oh là là, on m'a mis dans un moule, moi j'ai vu ça dans ma famille, tel ou tel grand-oncle qui est obligé de jouer le piano, hein, on connaît. Mais simplement, ce qui m'interpelle, c'est après, quel est le moment, tes antithèses, synthèses, restons égaliens, quel est le moment où elle va, et comment elle va prendre conscience, justement, parce qu'il y a la révolte à 15 ans, que vous avez dite, à 31 ans, c'est déjà un peu plus feutré. Et je pense qu'il y a un moment où elle doit revenir vers la révolte avec la réflexion feutrée en plus. Ce serait quand et surtout comment ?
C'est-à-dire que là, dans les traces du journal de jeunesse, forcément, ça s'arrête à un moment donné. Et puis, il va y avoir le mariage avec Édouard. Donc là, c'est des périodes, on va dire, un peu ordinaires dans sa vie. Mais comme elle l'a très clairement dit à Édouard Bourdet, nous ne sommes pas du même monde. Donc elle, pendant dans sa vie de femme, à ce moment-là, elle va lire les Upanishads, elle va s'informer sur les traditions de la philosophie asiatique, etc. Elle est à la bibliothèque en quasi-permanence parce qu'elle n'est pas, évidemment, elle n'a pas besoin de travailler, mais elle ne cessera pas de faire des études d'autodidacte, et on voit les traces comme ça, aussi bien dans des correspondances intellectuelles. Elle a aussi une relation avec Julien Benda, une relation amicale extrêmement, sur lesquelles ils réfléchissent ensemble à un certain nombre de données. On a, si vous voulez, là, faut l'imaginer, on pourrait dire, à la fois écrivant son journal, certes, mais c'est peu de temps, le journal, par rapport à tout le travail intellectuel qu'elle s'impose, avec cette dimension scientifique qu'elle va dépasser. Elle va écrire, par exemple, dès qu'elle a eu le baccalauréat, elle va à l'université en cours de physique et en cours de, on pourrait dire, chimie essentiellement. Et là, elle écrit des articles scientifiques dans le Figaro. Donc, elle est, comment dire, elle est, oui, une femme très moderne pour l'époque. Est très méconnue dans cette modernité et très méconnue d'une manière générale.
En effet. Donc, on n'est pas du même monde. On pourrait reprendre cette formule, la différence entre les deux mondes de Paul Valéry et de Catherine Pozzi, un grand bourgeois, une grande bourgeoise d'un côté et Paul Valéry qui tire toujours le diable par la queue. Et oui. Qu'en est-il de cette, enfin,
cette relation financière, tu
veux dire ? Un petit peu, oui, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'elle en a conscience, bien sûr, j'imagine, mais aussi, ça ne crée pas une distorsion
Ah ben ça, je pense que ça... Enfin, Paul Valéry tire le diable par la queue, c'est certes, mais il circule dans tous les salons mondains d'une époque où le mécénat est extrêmement important, et donc il est toujours invité par Martine de Béac, par la comtesse de La Rochefoucauld, etc. Donc Paul Valéry est un grand mondain, d'ailleurs elle lui en veut terriblement des soirées qu'elle trouve inutiles et gâchées que d'aller dans les salons. Il y a des lettres sanglantes à ce sujet, mais lui, de toute façon, il est levé à 4 heures et il travaille de 4 heures à 8 heures, et la journée il travaille donc pour gagner sa vie, c'est le cas de le dire, elle non, et il va le soir, il est en général dans cette société qui est à la fois une société de salon littéraire, une société évidemment riche, mais aussi une société brillante intellectuellement, voilà. Donc ceci dit,
qui est paradoxalement la société de Catherine Pozzi.
Oui,
qu'elle refuse en même temps.
Absolument. Mais d'ailleurs, elle est connue dans les salons de l'époque essentiellement pour la beauté de ses robes de haute couture. Et peu de gens, à part peut-être Marie de Régnier à l'époque, savent tout le travail qu'elle mène, savent même toute la souffrance de la maladie parce qu'on ne la voit pas quand elle est malade. Elle part en montagne, elle part au bord de la mer, mais en montagne pour se soigner, mais elle ne dit pas à tout le monde qu'elle est malade. Le seul moment où on va faire entendre des choses sur sa vie, c'est quand elle a failli mourir en 24, par exemple. Et là, il y a Rilke qui va essayer de la rencontrer à ce moment-là, mais donc il ne pourra pas aller trop malade. Mais bon, ils ont une correspondance aussi intéressante, même courte. Et puis, à partir de cette date-là, on sait qu'elle est très malade parce que justement on ne la voit plus, elle ne paraît plus, etc. Mais sinon, on découvre plutôt dans les journaux et la correspondance, je dirais, les coulisses de Catherine Pozzi. Oui. Et qu'effectivement, je dirais que les questions d'argent ne se posent pas entre elle et Paul Valéry. Sinon, à certains moments, pour des réponses extrêmement cinglantes qu'elle est capable de lui faire. C'est-à-dire, en gros, perdez votre temps à certains moments à travailler au lieu de penser, ce qui est un peu plus sévère.
Une question peut-être. Oui. Par rapport à l'écriture du voyage au bout de la nuit que vous avez évoqué un instant, c'est le côté oral écrit qui l'a intéressé.
Ce qui la surprend, oui, c'est la modernité de cette écriture. Mais il y a très peu de notes là-dessus, mais moi ça m'a beaucoup surprise de découvrir, parce qu'elle est quand même issue et d'une culture très classique, qu'elle revendique, et donc et je veux dire, on est à mille lieues de l'écriture de Catherine Pozzi, de Paul Valéry et de Céline, et elle est capable d'en percevoir l'intérêt. C'est ça qui est surprenant. Oui.
Et parallèlement, Marcel Proust.
Et alors, parallèlement, Marcel Proust, elle le connaît, puisque la famille Pozzi est très liée au frère de Marcel Proust, puisqu'il est véritablement l'assistant du professeur Pozzi. Oui. Mm-hmm. Mais elle n'en parle pas véritablement comme quelqu'un de célèbre. Je pense qu'on a un Proust qui, lui, travaille...
Oui, mais on va en 32 quand même.
Oui, mais on ne voit pas, en tout cas, de traces évaluatives de quoi que ce soit.
Oui, en rebondissant sur ce que j'ai réactif, ça pense que c'est bien contraire. Mais là, avant le dernier propos de Bernard, une question se pose à moi, puisque vous disiez tout à l'heure que sa maman tenait sa main. Alors, on a envie de se dire, étant qu'elle était érudite, comme vous dites, Panicha et autres, pourquoi est-ce qu'elle ne tient pas, elle, sa main pour elle?
Catherine Pozzi ne tient pas salon.
Pourquoi?
Je dirais que ce qui l'intéresse, c'est vraiment tout autre chose que la vie mondaine. Elle y va un petit peu dans la période post-valérienne, parce que là, c'est une période assez douloureuse. Elle est invitée, etc. Elle se montre. Elle n'y est pas allée aussi pendant la période de la liaison avec Paul Valéry pour éviter les rumeurs, enfin, etc. Mais elle n'aime pas véritablement cet univers et elle-même, elle aurait la possibilité de tenir sa main, mais elle n'y tient pas.
Je suis mal exprimé. Pardon. Je ne pense pas à un salon neuneux, si je veux dire. Et je rebondis volontiers.
Sur les salons littéraires, vous voulez dire?
Oui, un salon, justement, parce qu'on
a beaucoup de
gens qui s'intéressaient, comme on sait, derrière la vie mondaine, à la vie psychologique, à la vie sociologique. C'est beaucoup plus un chercheur. Elle aurait pu développer des idées pour en parler, à partir de l'équipe quantique ou autre. Beaucoup de questions sur est-ce que nous sommes plus que la vie qui nous recouvre dans les salons.
Oui, mais je pense que elle est vraiment hors de des salons, fût-il littéraire. Parce que là, on a l'air d'imaginer que parce qu'il y avait des gens prestigieux, parce que Proust, finalement, il va dans les salons, certes, enfin, dans sa vie noctambule, salon, certes, mais lui, il sait pourquoi il y va, il observe, il croque, ça lui fait... Quand il ne peut pas y aller, il demande à ses amis de lui décrire le vêtement d'un tel, etc., etc., parce que il se sert des salons, c'est sa matière, pour voir une comédie humaine qui l'intéresse. Tandis que Catherine Pozzi, elle est, si j'ose dire, quand elle est invitée dans une réception, elle y va très rarement, mais quand elle y va, c'est pour la réception. Il y a pas de... Elle ne va pas prendre la parole, oui. Elle ne va pas... Pas du tout quelqu'un qui... Sa mère tenait salon littéraire, elle le dit dans le journal de jeunesse, elle, jamais.
C'est là qu'elle aurait...
Oui, c'est ça, oui.
Elle a distillé des idées, des notions, ce lien entre physique et métaphysique.
Oui, c'est un salon intellectuel, oui. La façon de...
Mais je pense qu'elle, par exemple, elle est vraiment dans une vie très ascétique, finalement, quand on la voit, surtout quand elle est avance... On la voit travailler, enfin je veux dire, on a la trace de son travail, c'est des heures de travail. Il ne faut pas oublier qu'elle est autodidacte. Et même si c'est une brillante autodidacte, elle l'est.
Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle elle a rompu avec Paul Valéry ?
Il y a des tensions extrêmement violentes qui vont surgir dans les... En 26, dans les années 1926, parce que elle va révéler à la femme de Paul Valéry qu'elle est sa maîtresse, parce que elle se dit qu'elle doit cette honnêteté. Donc ça crée des relations d'une violence extra, un scandale parisien, déjà, enfin dans le monde de l'époque qu'elle fréquente. Et là, on peut dire que les tensions. Vont s'accentuer, même si il va y avoir jusqu'en 28 une relation encore très amoureuse, mais on pourrait dire que là on sent véritablement venir le fait, et elle ne cesse de lui dire à quel point elle déteste justement le fait qu'il soit dans les salons au lieu de travailler à quelque chose qui serait de l'ordre de l'absolu de la pensée. Il y a toujours les termes chez Catherine d'absolu, etc. Donc elle le trouve servile, il l'est un peu, parce que tout à l'heure Bernard évoquait l'aspect financier de la question, et c'est vrai que Paul Valéry a besoin de mécènes, et elle lui reproche sa campagne pour la candidature à l'académie, etc. Elle trouve que véritablement il sert une société qu'elle trouve absolument, mais hors champ de cet absolu philosophique auquel elle prétend accéder. Donc on peut dire qu'à partir de 26, on voit bien les tensions surgir, et elles rompent très brutalement. Et mais au point que Paul Valéry va passer devant chez elle pour essayer de la voir, etc. On voit un Paul Valéry absolument désemparé là, dans cette période. Donc on pourrait dire que la séparation commence réellement à se formuler vers les années 26 à cause des tensions qui sont d'une violence verbale extraordinaire. On le voit dans les traces du journal et de la correspondance qui reste.
L'amour passionnel.
Tout à fait, oui. Tout à fait passionnel, oui, oui. Et elle est d'une extrême sévérité. Oui.
En parlant de l'Académie française, je crois que Catherine Pozzi l'avait poussée quand même à la... Elle avait ouvert les portes.
Elle l'aide par ses relations.
Voilà, c'est ça.
Madame Bulteau, etc., qui vont aider au chemin. Mais elle trouve qu'il en fait trop, qu'il va trop dans les salons. Ah, oui. Et puis, bon, l'Académie française, ça lui est dû, mais c'est pas... Pour elle, c'est vraiment des contingences, oui, on pourrait dire ça comme ça.
D'accord.
Oui, c'est des contingences pour elle.
Eh bien, merci beaucoup. C'est magnifique. Et il y a donc des livres, notamment ce très beau livre de Mireille, qu'on peut compulser. Puis des quelques photographies aussi, qu'on peut regarder. Merci beaucoup.
Merci à vous. Un coup d'œil sur